Chapitre 74. 2h40. C'est un trio insolite qui remonte le tunnel secret, s'étirant quelque part sous la lande. Trois générations n'ayant rien en commun, hormis le fait d'avoir hérité chacune à sa façon d'une histoire séculaire digne des légendes et pourtant bien réelle. Le plus ancien en sait manifestement davantage que ce qu'il a toujours prétendu. Son cadet voudrait comprendre, et le plus jeune a failli y passer, victime de ce qui se joue. Edward, inconscient sur sa brouette d'un autre temps, gémit parfois dans ce qui s'apparente de plus en plus à un sommeil profond. Son jeune corps en état de choc s'est mis en veille pour tenir. Rognard, perclus de courbatures et de bleus, s'épuise à pousser la charge alors que ses bras et ses épaules l'élancent douloureusement. Pourtant, en comparaison de l'état de ses deux compagnons, il est obligé d'admettre qu'il est le moins à plaindre et que pour leur sécurité, il n'a pas intérêt à mollir. Thornton semble s'être fait brutalement rattraper par son âge. En moins d'une heure, il a pris un coup de vieux que le seul cours du temps n'explique pas. Son maintien s'est relâché, sa démarche s'avère moins assurée. Est-ce la conséquence d'avoir été rudoyé par la violente irruption de l'eau et des débris? Ou bien est-ce parce qu'il s'est retrouvé obligé de révéler l'existence du réseau souterrain? Cette dernière option apparaît peu probable, étant donné la bonne volonté avec laquelle il retrace l'histoire du lieu. Tout ce que vous voyez a été excavé à la force des bras, sur des décennies, sans jamais éveiller les soupçons des villages alentours. Un travail de bagnard. L'homme qui a voulu m'assassiner a prétendu que les navires ne faisaient pas escale pour prendre livraison, mais pour déposer, il a dit vrai. Savez-vous ce qu'ils apportaient? Il faut d'abord considérer le type de bateau qui s'arrêtait ici. Les plus imposants de l'époque, exclusivement des galions espagnols, taillés pour affronter l'océan qu'ils venaient d'ailleurs de traverser. Car ils rentraient, mon cher Christopher, ils revenaient tous du plus long périple envisageable à cette époque. Le Nouveau Monde. Exactement. Personne ne sait précisément comment l'affaire a commencé, mais j'ai pu reconstituer la façon dont l'activité de la baie s'est développée. Un trafic? Ce n'est pas aussi simple que ça. Pour en saisir la nature, il faut remonter plus loin dans le temps. Au moment où, comme souvent pour ce qui compte, une relation hors norme donne naissance à un projet insensé. Les yeux de Thornton pétillent. Après la découverte des Amériques, en 1492, les premiers explorateurs de retour en Espagne ont rapporté de nombreux produits inconnus comme le tabac ou des animaux et des plantes exotiques, mais aussi et surtout d'importantes quantités d'or et d'argent. Fascinés par les perspectives d'enrichissement, les souverains espagnols ont immédiatement décidé de financer d'autres expéditions, vers ce qui sera très vite surnommé l'Eldorado. Bien que brandissant l'étendard de la foi et de la grandeur du royaume, les conquistadors se sont alors lancés à l'assaut de ce continent avec l'idée de s'enrichir. Ils ont pillé, asservi et massacré les populations locales, détruisant des civilisations dans le seul but de s'accaparer le plus de métaux précieux possible. En quelques années, ce ne sont plus quelques navires qui ont été affrétés pour des traversées au coup par coup, mais de véritables liaisons régulières qui multipliaient sans cesse les allers-retours entre le vieux continent et le nouveau. Portée par cette demande et cette avidité, la flotte espagnole s'est spectaculairement développée au début du XVIe siècle. Les richesses ramenées en masse lui en donnèrent d'autant plus les moyens, jusqu'à en faire l'une des plus puissantes du monde. Les marins anglais et écossais très réputés ont alors trouvé des emplois dans une autre marine que la leur, qui s'est pour une période trouvée dépassée. C'est là que tout a commencé ? Thornton opine. Certainement avec une histoire d'amitié, de confiance en tout cas. Il faut savoir que les premiers Kinloch n'étaient pas des pêcheurs, mais des marins, embarqués sur des galions, où se sont créés à l'évidence des liens avec certains officiers espagnols. Je ne saurais dire comment les choses ont évolué, mais toujours est-il que cet attachement autour de certaines valeurs s'est prolongé de père en fils, et que, entre l'existence d'une communauté soudée et le fait que la baie était suffisamment profonde, les galions qui rentraient vers l'Espagne, les cales chargées de fortune, ont effectué leur premier détour clandestin pour faire halte ici et se délester d'un peu de leur trésor. Ils venaient donc déposer une partie du butin pillé? Exact. Ce sont les galions commandés par un certain capitaine Velasco, puis par ses descendants, qui ont ainsi pris l'habitude de faire ce crochet d'environ 2 semaines jusqu'à Kilthorpe. Velasco, répète Reynard pensif. Il met quelques instants à retrouver pourquoi ce nom ne lui est pas étranger. C'est la signature qui figurait sur les billets à ordre. Je connais ce nom. J'ai retrouvé dans un mur de Chief's House des documents écrits de la main de cet homme, des sortes de reconnaissances de dette. C'est bien possible. Même s'il peut très bien s'agir d'un de ses descendants, car ce pacte entre les familles a perduré sur plusieurs générations. Que faisait-il de cette fortune détournée? C'est là que l'affaire prend une autre dimension. En racontant, Thornton oublie sa fatigue et retrouve un peu de son énergie. Il poursuit. L'un des points les plus surprenants reste que les Kinloch et les Velasco n'ont pas mis en place cette contrebande à des fins d'enrichissement personnel. Aucune des deux familles n'a changé son train de vie et tous ont continué à vivre modestement de leur labeur. Alors, quel était leur dessein? Je n'ai trouvé qu'une seule explication qui tienne. Et ce que j'ai pu découvrir ensuite n'a fait que la confirmer. Ils ont été légitimement scandalisés par le comportement de leurs compatriotes envers les autochtones des terres conquises. Et c'est une même révolte qui les a poussés à réagir. Ils ont décidé de constituer une sorte de trésorerie pour permettre la création d'un royaume en Amérique du Sud, ou même ici, qui serait basé sur la justice et l'égalité entre les hommes. Résolument visionnaire, mais légèrement en avance sur les idéaux humanistes. D'où leur action clandestine. Ils ont ainsi prélevé des richesses au fil des voyages, en les entreposant ici, déterminés à les consacrer à de nobles causes. Ont-ils seulement réussi à en appuyer certaines? La famille Velasco est à l'origine de la création de plus de la moitié des écoles qui furent ouvertes à tous les enfants en Espagne, à une époque où l'instruction était un privilège réservé aux aristocrates. Les Kinloch ont quant à eux financé directement ou indirectement une bonne partie de la flotte de pêche qui permit à l'Écosse de survivre à l'oppression anglaise. Sans eux, ce sont de très nombreux villages côtiers qui auraient péri, faute d'outils de travail. Un gémissement d'Edward les alerte. Le garçon se met à tousser. Reynard pose aussitôt sa brouette et se précipite. Il ausculte l'enfant qui ne se réveille pas. Il lui caresse le front en le réconfortant. « Tout va bien. Tu es en sécurité. On te ramène chez toi. » Le jeune garçon n'a aucune réaction. Mais en le réinstallant plus confortablement, Chris note que ses bras ont retrouvé un peu de leur tonicité. « Il est glacé », constate-t-il en lui tenant les mains. « On lui donnera une douche chaude dès qu'on arrivera chez moi. » Thornton a baissé la voix, comme si la réalité de la situation lui revenait brutalement, après que sa narration l'en avait distrait. Reynard dévisage le doyen penché sur l'enfant. Il a du mal à le reconnaître. L'incident de la brèche l'a affaibli, mais Christopher perçoit quelque chose de plus profond. « Duncan, comment vous sentez-vous ? Ça va, ça va. C'est Edward qui a besoin de toute notre attention. Avançons sans perdre une minute. » Reynard reprend les poignées de la brouette et redémarre. « Où en étions-nous ? » demande aussitôt Thornton. « À ce que les deux lignées avaient fait des richesses amassées. Ah oui, c'est ça. » Thornton éprouve quelques difficultés à retrouver le fil. Il y parvient cependant. Au final, les galions auront fait escale dans la baie pendant près d'un siècle et demi, Christopher. Aussi longtemps que les liens entre les deux familles ont été maintenus. Duncan, ménagez vos forces. Vous n'êtes pas obligé de tout me raconter maintenant. Nous aurons le temps plus tard. Ça me fait du bien. Beaucoup de bien. C'est ici que je dois vous confier ce que je sais. Cela n'aurait pas la même valeur ailleurs. Il lance un coup d'œil à son cadet. « Vous savez, je n'en avais jamais parlé à personne. Je suis heureux de vous transmettre mon secret. » J'en suis touché. Reynard sait qu'empêcher Thornton de parler lui ferait de la peine. Les yeux rivés sur Edward, dont il guette le moindre signe, il choisit de relancer lui-même la conversation. « Avez-vous déjà vu une pièce avec une face espagnole et l'autre anglaise ?» Thornton marque le pas. « Comment avez-vous pu entendre parler de ça ?» Mon assaillant en possédait une. Il en était d'ailleurs très fier. Il a laissé entendre qu'au temps des Kinloch, ceux qui n'étaient plus en mesure de tenir leur place étaient priés d'aller prendre leur retraite ailleurs, en se voyant remettre suffisamment de ses pièces pour ne manquer de rien. Chris pose la brouette un instant et fouille ses poches. Je l'ai sur moi. Avec une lueur indéfinissable dans le regard, Duncan le fixe, visiblement impatient de voir l'objet. Mais Reynard ne la trouve pas. Bon sang, je l'ai certainement perdu en gesticulant dans l'eau. Ne vous en faites pas, je sais parfaitement de quoi vous parlez. Cette pièce est vraiment une énigme. En effet, là encore, je dois remonter le temps pour vous en livrer l'origine. Le doyen s'anime à nouveau. Lors des premiers transports de métaux précieux, les chargements étaient constitués d'objets issus des pillages, bijoux, ornements, vaisselle, et même de minerais bruts, placés dans des caisses ou dissimulés dans des tonneaux. Mais très vite, ces cargaisons sont devenues la cible des pirates, et les pertes ont été conséquentes. La couronne espagnole a rapidement décidé de minimiser les risques en les transformant en doublons sur place, avant même leur départ de leur terre d'origine. Cette opération était censée dissuader les forbans de faire main basse sur les richesses, puisqu'il n'était plus question de rafler de simples biens de valeur, mais de voler une monnaie royale, ce qui était un crime puni de mort. C'est ainsi qu'à peine quelques années après les premiers conquistadors, les Espagnols refondaient or et argent pour les transformer en leur monnaie. Cela n'explique pas la face britannique. Les Kinloch ont dû s'adapter à cette nouvelle donne. Ils n'auraient jamais pu écouler des doublons sans se faire repérer. Alors ils ont mis au point un atelier qui, dès leur arrivage, convertissait ces doublons en pièces locales, masquant ainsi leur provenance. L'or des Amériques subissait ainsi une double métamorphose. Effectivement, les doublons étaient refondus ou refrappés. Ingénieux. C'est sans doute de là qu'est née la version mettant en scène des faux monnayeurs. La pièce que j'ai vue était donc uniquement une erreur. Non, Christopher. Ces pièces étaient le moyen d'obliger ceux qui en détenaient à les refondre, sans pouvoir les exploiter telles quelles. Ceux à qui elles étaient remises ne pouvaient pas les échanger au grand jour, sous peine d'être condamnés pour trafic. C'est ainsi que les Kinloch et les Velasco rétribuaient ou dédommageaient leurs associés tout en les astreignant au silence. La double porte devant laquelle Rognard était passé en courant à l'allée est en vue. Il la désigne d'un mouvement du menton. Est-ce là que se trouvaient les ateliers? Là et ailleurs. Le réseau souterrain abritait des réserves, les établis de différents artisans et même des cellules. Il n'en subsiste aujourd'hui plus grand-chose. M'autoriserez-vous à visiter ce qui reste? Je n'ai pas à vous y autoriser, Christopher. Je ne suis propriétaire de rien, et vous en savez désormais presque autant que moi. Le doyen soupire et fait jouer ses épaules. Il semble soulagé de s'être allégé de ses secrets. Tout s'est donc arrêté avec les Kinloch, demande Chris. On peut le résumer ainsi. Pourtant, j'ai cru comprendre qu'Ailey, la dernière survivante du clan, avait transmis la charge à un proche de la famille, un certain Kiran, qui aurait poursuivi l'activité avec ses fils. Thornton trébuche. Rognard pose immédiatement la brouette pour le soutenir. Duncan, faites une pause, je vous en prie. Pas le temps. Regardez comme le petit tremble. Obstiné, le doyen repart déjà. « Christopher, dit-il, comment avez-vous découvert l'existence de ce Kiran ?»« Grâce à des notes écrites de la main d'Ailey, la sœur de Peter. Elles étaient cachées avec les billets à ordre de Velasco dont je vous parlais tout à l'heure. Oh, grand Dieu !» Ailey ne tarit pas d'éloges au sujet de cet individu, un ancien ami de son père qui aurait pris soin d'elle avec beaucoup de loyauté quand elle s'est retrouvée seule. Voilà qui est bien. Thornton marque un temps avant de reprendre. Tout ce que je sais pour ma part, c'est que cette fortune philanthropique qui dormait ici attira de nombreuses convoitises. Rognard s'étonne que l'Écossais change aussi rapidement de sujet et replace l'or au centre de leur discussion sans chercher à approfondir la piste de cet allié. Sans doute ce qu'il est advenu des pièces lui paraît-il plus important. Chris rebondit sur les propos de son aîné. La confidentialité absolue n'étant jamais possible, des fuites ont dû avoir lieu, expliquant l'attaque meurtrière dont le village a été l'objet. Vrai, mais qui que soient ces sauvages, ils n'ont rien trouvé. Par contre, durant les décennies qui ont suivi, et même jusqu'à une époque plus proche de nous, nombreux sont ceux qui ont cherché à venir financer leur cause, souvent désespérés. Les pièces du puzzle s'assemblent un peu plus dans l'esprit de Rognard, qui s'exclame. Les personnalités qui sont venues ici espérait bénéficier des fabuleuses richesses accumulées. Tout avait en commun un besoin d'argent aussi colossal que pressant pour sauver leurs ambitions. Pensif, Rognard énumère les noms qu'on lui a cités. Jefferson, Marx, Napoléon. Tous se retrouvèrent menacés à un moment ou à un autre par la ruine de leurs finances. Certains en ont peut-être bénéficié, mais j'ignore qui. Christopher dévisage soudain Thornton. Duncan, qui a équipé cette galerie d'un éclairage électrique ? Le doyen répond du tac au tac, sans aucune réticence. Mon grand-père. Il a mis des années, et pour y parvenir, il s'est payé ce qui fut sans doute l'un des tout premiers groupes électrogènes, venu directement des États-Unis. Chris désigne le tunnel d'un mouvement de tête. J'ai remarqué qu'une section du souterrain, entre ici et votre meuble à secret, n'est pas de la même nature que le reste. Elle a été aménagée plus tard, n'est-ce pas ? Thornton rit. Bien observé, mon garçon. C'est donc vrai que vous êtes malin. Ce tronçon a été prolongé après que les Kinlock ont passé la main. Le passage menant vers la maison est en vue. Edward montre quelques signes d'agitation. L'esprit de Rognard tourne à plein régime. Duncan, pardon de vous poser la question si directement, mais êtes-vous le descendant de Kieran ? L'homme le regarde longuement. Vous savez quoi, Christopher ? Vous n'imaginez pas la joie que cela me procure, que ce soit vous qui l'ayez deviné.